Bonsoir chers auditeurs et bonsoir Damien. À tous, l'équipe d'Historia présente ses meilleurs vœux de bonnes et heureuses années 2020. Souhaitons qu'elle vous apporte la santé, le bonheur et la prospérité à vos proches, famille et vous-même, bien sûr. Nous formons aussi le vœu de vous retrouver toujours aussi fidèles le vendredi autour de 17h et autour de votre émission d'Histoire sur REM. Nous essaierons de nous montrer digne de votre confiance. Et en parlant de confiance, justement, certaines dans notre beau pays de France en manquèrent cruellement, comme nous l'allons voir. Puisque nous allons vous raconter ce mois-ci un autre pan de l'histoire, avec un grand H. Et les prochains numéros d'Historia seront non pas consacrés à un personnage, mais à un événement. Un peu particulier d'ailleurs s'il en est, puisqu'il décida simplement et définitivement de l'élimination totale d'un groupe, d'un ordre plus justement. Un ordre qui, à l'époque, au XIVe siècle, prenait une importance capitale pour la survie spirituelle de notre civilisation. Un peu trop d'ailleurs, un peu trop, au point qu'il en inquiéta non seulement la papauté d'alors, mais également les souverains en place, notamment le nôtre, Philippe le Bel. Alors, pourquoi eux? Qui étaient-ils? Quel pouvoir avaient-ils? Pour qui roulaient-ils? Nous allons donc vous raconter leur procès, le dernier procès, puisqu'ils auront disparu après. Mais fut-il juste ce procès? Fut-il juste? Pas sûr. Pas sûr du tout. La preuve, il signa la fin d'un ordre et le début d'une légende qui, 7 siècles après, continue de nous intriguer. Et oui, chers auditeurs, ce fut le premier grand procès politique et religieux, comme on le verra, de l'Europe médiévale. Et les vainqueurs ne sont pas ceux que l'on croit, même si les vaincus, eux, le sont bien. Ça, c'est une certitude. Ces gars-là avaient la foi, vraiment. Ils étaient purs, sincères, dévoués. Mais hélas, hélas, bien trop riches, bien trop puissants, et donc bien trop dangereux. Ils furent à l'origine d'une véritable révélation des mentalités, avant d'être cruellement abandonnés, enfermés pendant des mois, torturés, bien sûr, pour avouer des choses auxquelles ils ne croyaient pas. Leurs bourreaux, pas davantage d'ailleurs, ce qui nous amènera à nous interroger sur l'aspect politique. Néanmoins, coupables ou innocents, vous vous ferez votre opinion, chers auditeurs, mais une chose est sûre, certain, acté, inacceptable, ils n'ont pas eu de procès en règle, ça c'est une certitude. D'où, nous avons sans aucun doute, la légende est née et la déchéance des différents protagonistes, c'est-à-dire le roi et le pape, qui en découla. Et oui, nous sommes à Paris, 11 mars 1314, île de la Cité. Le bûcher est allumé. Le 23e et dernier grand maître va périr et avec lui son ordre. Aujourd'hui, nous sommes à Sauveterre, 98.4 FM, REM 17h05. Historia vous présente le dernier jugement des Templiers. Et c'est maintenant.
Compagnon fera une verse, quel couvinen. Et aura imas de faudas, nous y avaisen. Et er tout mesclats d'amour, et de joy, et de juven.
Mais puisque tel est l'objet de ce numéro, vous êtes en droit de vous poser la question suivante, chers auditeurs. Pourquoi raconter le, entre parenthèses, faux procès de cet ordre des Templiers? Eh bien, pour mettre à l'épreuve votre sagacité, tout simplement. Historia aurait pu vous raconter leur aventure, certes, certes, vrai, évidemment. Mais voilà, nous sommes en Pays d'Oc. Tout le monde connaît les cathares, les Templiers, les Hospitaliers, j'en passe, c'est des meilleurs. Ceci, de par nos origines, notre culture, nos traditions. Damien adore ça, c'est l'Occident, je le sais. Il y en a plein les rayons, plein les rayons. Pourquoi et comment ont-ils disparu? Telle est la gageure, et c'est une autre histoire, aussi intéressante, plus passionnante encore, mais aussi, avouons-le, bien plus cruelle. Nous allons donc, par ces numéros d'Historia, relever ce défi. Et pour recadrer le contexte, l'époque, etc., nous commençons par vous conter succinctement en quelques minutes leur apparition, leur évolution et enfin, bien sûr, leur disparition. Puis nous rentrerons dans le vif du sujet et vous allez tomber de haut, croyez-en sûr, chers auditeurs, de très très haut. Quasiment donc tout le monde a entendu parler des Templiers. Oui, quant à les connaître, c'est une autre histoire. Nous sommes le 15 juillet de l'an 1099, disons 1100 quoi. Des pèlerins, latins et européens, armés, s'emparent de Jérusalem. Un vrai massacre, horrible, horrible, à tel point que les chroniqueurs de l'époque évoquèrent pour ces faits l'apocalypse. C'est dire, hein, quand même, c'est dire. Pour les chevaliers latins, le pèlerinage est terminé. Alors, ils rentrent presque tous en Europe. Que voulez-vous qu'ils fassent sur place ? Le périple pour sauver Jérusalem et le nouveau royaume aura duré 4 ans. 4 ans, 4 longues et douloureuses années. Tous croyaient sincèrement, réellement, aux prophéties. Après l'Antéchrist, Jésus reviendrait et la Jérusalem céleste descendrait sur terre, tout comme l'annonçait précisément l'Apocalypse. Précisément. Sauf que l'histoire s'affranchit des prophéties. Oui, Jérusalem fut conquise, certes. Mais la Jérusalem céleste ne descendit pas des cieux, parlez. Ah non, non, elle ne descendit pas, non. Un sentiment d'échec suivit la sanglante conquête de la ville. Un sentiment d'abandon aussi et de désillusion. Et c'est de ce sentiment d'échec, que naquit précisément l'ordre des Templiers. Ceux qui restèrent sur place, les fameux croisés que l'on connaît, prirent le statut de sémifrates, c'est-à-dire des laïcs, au service d'une institution. À Jérusalem, il y avait 2 institutions qui dominaient, les hospitaliers de Saint-Jean, l'ordre de Malte, et les chanoines réguliers de Saint-Sulpice. Les croisés ne voulaient rien d'autre que la gloire de Dieu, pas la leur, hein. Et donc on leur confia une fonction de police, la protection des pèlerins arrivant en Terre Sainte contre tous les brigands de toutes les religions. En échange, les repas. Rien de plus, rien de moins. Et c'est tout. Triste condition en réalité, puisque ces chevaliers, pauvres, voire même souvent très pauvres, avaient tout abandonné pour le royaume des cieux, terre, famille, honneur, et ils n'avaient même pas le droit de combattre, eh oui, car obéissant aux prêtres. Juste des policiers en somme, réduits pour la grande majorité à vivre de l'aumône en échange de services. Un vœu est un vœu. Et pourtant chez nous ils étaient chevaliers donc soldats. Ah, quel gâchis! Quel gâchis! Alors ils se mirent à réfléchir, ces pauvres chevaliers, soldats, sans boulot, crèvent la faim. Et ils en déduisirent qu'ils possédaient en vérité un immense trésor, leur condition, leur talent de chevalier. Et ils déduisirent autre chose. Leur vocation spirituelle était de secourir la Terre Sainte, et sans eux, Jérusalem sera très vite reprise et perdue à jamais par les Sarrasins. Oui, 1000 fois oui, le vrai trésor dont avait besoin le Seigneur, c'était eux. Incroyable, fantastique. Sauf qu'ils avaient tous fait vœu d'obéissance devant le prieur du Saint-Sépulcre. On dit Saint-Sépulcre, oui. Comment se délier de ce vœu pour la gloire du Seigneur et de la Sainte Terre? Ah, bonne question, oui. Ils se réunirent élire comme maître Hugues, originaire de Payence en Champagne, puis partir discuter avec Baudouin II, le roi de Jérusalem, lequel intercéda en leur faveur, convoqua le patriarche, évêque, les princes, et leur demanda de délier de leurs vœux d'obéissance à ces fameux chevaliers. Eh bien, figurez-vous, chers auditeurs, que tous acceptèrent, tous, à condition qu'ils gardent une partie de l'insigne du Saint-Sépulcre. Dorénavant, leur uniforme serait une grande toge blanche à manches très longues, avec une croix rouge au milieu et deux bras sur la poitrine. L'image du croisé que l'on connaît nous apparaît donc dès le premier jour de la création de l'ordre, et figurez-vous qu'ils ne la quitteront jamais. Ainsi, ces chevaliers du temple passent d'une économie d'échange, des repas, à une économie de dons. Ils donnent donc tout ce qu'ils ont. Car voilà, les templiers sont des chevaliers avec une vocation religieuse, communautaire. Et n'oublions jamais que partir en Terre Sainte pour sauver son âme leur était insupportable. Ils considéraient cet acte comme égoïste. Eux voulaient changer l'histoire religieuse à mieux même, à mieux. Inventer une nouvelle forme de vie religieuse. Ça, c'était leur credo. Inventer une nouvelle forme de vie religieuse. La preuve en est qu'en vérité, ils se situent entre les deux mondes. Celui des moines et celui des frères. N'étant d'ailleurs aucun des deux à la fois. Hein. Ce qui était à l'époque un réel, fantastique bouleversement. Puisqu'ils posaient la question, la seule vraie question essentielle. Pouvait-on être à la fois un homme de prière, oratores, et un homme de guerre, Bella Torres? Telle était la question qui allait bouleverser l'époque et changer ainsi les époques suivantes dans les esprits, surtout dans les esprits. Et bouleversement, il y eut, figurez-vous. Le 14 janvier 1129, soit à peine 150 ans après leur création, hein, même pas, hein, fête de la Saint-Hilaire, les pauvres compagnons de bataille du Christ et du temple de Salomon, ça c'est un sacré truc, hein, recevaient la règle, ainsi que l'autorisation de tuer l'ennemi sur le champ de bataille. Sans péché. Je dis bien, ils ont rajouté deux mots, hein, sans péché, puisque pour moine, il était évidemment interdit de tuer. Sans péché, qui permettent la naissance du premier ordre religieux et militaire de la chrétienté latine. Oui, ce jour-là, 14 janvier 1129, est né l'ordre du Temple. Et ça allait tout changer. Et ça allait tout changer pour tout le monde. Pour tout le monde. En Terre Sainte naîtra très vite après deux autres ordres militaires. Les hospitaliers, à peu près 5 ou 6 ans après, et les teutoniques, une cinquantaine d'années après. Enfin, c'est très vite quand même au sens de l'histoire. Sauf que ces deux ordres étaient bien, mais alors bien, bien différents des templiers, puisque ceux-ci n'avaient qu'un but moral, la sainteté. Conciliant religieux et guerrier néanmoins. La règle des Templiers était originale, surprenante même, anti-ascétique pour des frères et anti-héroïque pour des chevaliers. En fait, oui, on ne savait pas trop ce qu'ils étaient. Ils étaient un peu les deux à la fois et un peu rien du tout. Je le répète, anti-ascétique pour des frères, bien sûr, et anti-héroïque pour des chevaliers. Un non-sens. Encore une fois, on le redit, un seul but, la sainteté. Ils ne voulaient rien d'autre. Pas de gloire, pas d'argent, la sainteté, rien de plus. Ainsi donc, pour les Templiers, aventures, prouesses, largesses, décorations, etc. sont prohibées. Pas de cadeaux à offrir, ou recevoir non plus, bien sûr. Les vœux monastiques de pauvreté obligent. Quoi que fit le Templier, le seul mérite en revient à Dieu. À Dieu. Seule leur est permise la chasse au lion pour deux raisons. L'une religieuse, le lion est le symbole du malin, du mal. L'autre raison est pratique. Ces lions représentent un réel danger en Terre Sainte, car bien trop nombreux. Eh oui, les lions, ils croquaient un peu les fidèles, quoi. Cette règle, donc, qui dépend exclusivement du pape, on ne le redira jamais assez, exclusivement du pape, est connue grâce à 10 manuscrits, 7 en latin et 3 en français, d'ailleurs. Dès le début, cette règle est traduite en vieux français. On y ajoute aussi, en langue d'oïe, de nombreux statuts et règlements. Mais nous verrons ça tout à l'heure. Dès le début, les Templiers ouvrirent l'ordre aux femmes, qui fut aboli d'ailleurs en 1128. Autrement dit, dès que la création de l'ordre des compagnons de bataille fut créée, on abolit l'ordre des femmes. Ils préconisèrent également l'usage de la langue vulgaire, afin qu'elle soit accessible au plus grand nombre. La langue vulgaire, c'était la langue du peuple, hein, rien de plus. Le premier texte traduit fut la règle primitive, en langue d'oïl, ou comme on disait à l'époque, d'outre-mer, la langue d'outre-mer, hein, ça s'appelait comme ça. Toi, Damien, tu parles l'outre-mer. Voilà, c'est comme ça. Ainsi, ces Templiers partageaient beaucoup avec les chrétiens d'Orient et les musulmans, et notamment, leur règle voulait atténuer les différences de classe, donc favoriser la fraternité, reconnaître la dignité du travail. Et comme ils avaient fait vœu de pauvreté, bien sûr, ils renonçaient aux biens matériels, ça, c'était évident. Même si l'aventure dura quand même 150 ans, hein, vers la fin du XIIIe siècle. Peu de Templiers ne pouvaient plus continuer leur révolution, on dit révolution entre guillemets, et pour une cause impérieuse. La chute de Saint-Jean d'Acre en 1291 scellait l'aventure des croisades. Et oui, ce fut une révolution. Cet ordre devenait alors sinon obsolète, oui, au moins désuet, il ne servait plus à rien, quoi. Mais pour le moins, son importance et son influence n'avaient guère de raison d'être. Voilà, ça, c'est pour la petite histoire. Mais voilà, la grande histoire est bien différente. En effet, et la réalité est bien plus cruelle, que les Templiers soient présents ou non, en fait, ne gênait personne. Pas vraiment, quoi. Sauf que voilà, un grand personnage, un roi, cupide, ambitieux. En fait, c'était Philippe le Bel, roi de France. Lui, ça le gênait. Ah oui, lui, ça le gênait vraiment, quoi. Celui-ci traversait un marasme économique et les Templiers étaient riches, immensément riches même. Enfin, on voit de quoi il s'agit, bien sûr, mais de plus, l'ambitieux roi voulait un nouvel ordre, unique, surtout militaire et religieux, avec à sa tête un capétien, ah oui, héritier de Saint-Louis. Enfin, les Templiers dépendaient seulement, on l'a dit tout à l'heure, seulement du pape, d'où une épine dans le royaume de France. Ainsi, Philippe le Bel ne voulait qu'une chose, l'anéantissement physique et culturel de cet ordre. Physique et culturel. Les Templiers devaient simplement disparaître de la surface de la terre, être exterminés corps et âme. Donc on s'en occuperait un peu plus tard, hein. Les biens, on verrait ça si on se les partage. Bien sûr. Car voyez-vous, chers auditeurs, Philippe le Bel ne rigolait pas vraiment. En qualité de vicomte de Jésus-Christ et ministre de Dieu, alors ce titre, dis donc, il avait déjà, en 1301, accusé d'hérésie l'évêque de Pamiers, Bernard Seyssé. Eh bien, dis donc, puis fit de même contre le pape Boniface VIII. Accuser le pape d'hérésie, c'est raide ça. Excusez du peu. Dès lors, se produit l'impossible, vraiment l'impossible. il accuse des mêmes motifs, d'hérésie donc, un ordre religieux entier. Entier. Gonflé, le roi, quand même, non ? Alors, sur ordre du roi de France Philippe le Bel, lui c'était un avide, un cupide, en l'an de grâce 1307, le vendredi 13 octobre, tous les Templiers sont arrêtés et leurs biens saisis. En fait, les Templiers s'en moquaient un peu, hein. Lui ce qu'il voulait c'était le pognon, quoi, en gros. Hein. De suite, les officiers royaux et l'Inquisition interrogent et torturent. Quand même, il faut bien qu'ils avouent quand même ces Templiers, qu'ils sont hérétiques, qu'ils sont arrogants, qu'ils sont avares. Ben voyons, Charles, ben voyons. Sauf que, malgré tous ses défauts, le roi avait une qualité. Une qualité, tu parles. Il était un vrai opportuniste. Ouais, ouais. Et oui, car figurez-vous qu'en vérité, tout était parti des dignitaires du temple et du pape lui-même. Non, 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 vous le croyez ça ? Et pourtant, afin de démentir toutes les calomnies rapportées sur le temple, le pape Clément avait averti le roi de France d'une enquête de vérité. On appelle ça une enquête de vérité. En gros, c'était pour le blanchir. Hein. Voilà, rien de plus. Appuyé par le grand maître du temple, Jacques de Molay. Nous sommes en août 1307, le 24 exactement. Pas de bol, le pape tombe malade et l'on reporte à mi-octobre le lancement de l'enquête. Du pain béni, si j'ose dire, pour Philippe le Bel qui se frotte les mains. Erreur fatale, monsieur le pape, erreur fatale aux conséquences incalculables. Opportuniste, disais-je, le roi ? Oui. Lui agit de suite. D'où arrestation, torture, procès, etc., etc. Lui bombardé. Le pape, pas content, voulut reprendre la main, bloque l'Inquisition de France et commet une deuxième erreur catastrophique. Une deuxième erreur catastrophique, mais catastrophique pour tous, pour tous. Il étendit le procès à toute la chrétienté. Toute la chrétienté, je ne sais pas ce qu'il a fait le pape là, mais n'importe quoi. Hein. Pour ce faire, il lance deux enquêtes. Une contre l'ordre lui-même, confiée à des commissaires pontificaux, un par territoire, et un contre les Templiers en personne, distincte donc, confiée aux évêques. Deux procès. Alors là, qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Il ne sait plus où il était. Un vrai duel à distance, pape versus roi. On le voit de suite, et c'est justement ce qui va mettre le vrai bazar, ces deux enquêtes seront menées contre l'ordre et contre les Templiers. Alors qu'en vérité, c'est quasiment la même chose. L'ordre et les Templiers ne font réellement qu'un. Les Templiers, pour regard tout de même, hein, devaient donc répondre à deux tribunaux distincts pour la même accusation. Je rêve. Un peu comme en son temps, Jésus devant Ponce Pilate, hein, le pouvoir laïque d'un côté, et le Sanhédrin, le pouvoir religieux de l'autre. En fait, c'était le même. On sait ce qu'il advient de lui, le pauvre garçon, il adviendra la même chose des autres. La réalité est plus politique. En fait, Philippe le Bel, le roi de France, détestait Boniface VIII, le pape d'alors, et rêvait même de lui intenter un procès pour hérésie, on l'a dit tout à l'heure, et brûler son corps après sa mort. On parle du pape, là. Mais la réalité, si elle était politique, elle est aussi un peu plus financière. Eh oui, Philippe le Bel détestait tout autant l'ordre des Templiers, non pour ce qu'ils représentaient réellement, hein, mais seulement parce qu'ils étaient immensément riches. Ah, enfin, du moins, croyait-il. L'on verra qu'en fait, il en était tout autrement.
Adia vita.
résumé, Philippe le Bel, comme Boniface VIII, s'est planté sur toute la ligne. Mais alors, toute la ligne. Sauf que ce sont bien les Templiers qui ont morflé eux, ça c'est clair. Hein. Puisqu'en 1313, le nouveau pape, ça change les papes aussi, hein. Le nouveau pape, Clément V, n'attendit pas une seconde le verdict de la commission pontificale, réunie à Vienne d'ailleurs, Vienne en France, et abolit donc l'ordre des chevaliers, sans qu'aucun jugement ne soit prononcé, ni condamnation, ni absolution. C'est quand même un comble, hein. Oui, ils sont ni condamnés, ni absous. Bizarre. Surtout que la plupart, la grande part des Templiers mourut soit en prison, soit sous la torture, soit suite au mauvais traitement. Ouais, pratiquement, il n'en restait rien. Entre ces trois-là, le roi de France, le pape, l'ordre des Templiers, les dés étaient pipés. Les dés étaient pipés au départ, hein, et c'était un jeu à perdant-perdant. Nous allons voir maintenant un peu plus en détail comment nous en sommes arrivés à ce désastre d'abord, cette catastrophe ensuite, et enfin, à cette désillusion. Parce que, chers auditeurs, au final, croyez-le bien, sachez-le, aucun n'aura rien gagné dans l'histoire. Ni le roi, ni le pape, et bien évidemment pas les Templiers. Alors maintenant, voici plus précisément comment s'est déroulée toute cette histoire. Et donc, faisons un petit voyage en arrière. On appelle cela l'Uchronie. En guise de préambule, une précision pour nos auditeurs. Il sera beaucoup question de bulles pontificales dans nos explications. Et pour cause, rédigées par le pape himself, elles seront en quelque sorte des décrets, des lois, des dispositions à l'intention de tous les chrétiens, et leurs serviteurs, évidemment, les curés, les évêques, les moines, etc. Bref, elles sont un message du pape auquel il faut obéir, sinon, excommunication directe. On voit le genre, quoi. Par ces bulles, si on veut aussi, le pape rendait des sentences morales, toutefois, uniquement morales, le pape. Pour les Templiers, on peut dire qu'en vérité, Clément V n'a pas fait condamner ceci. Certes, mais pour une bonne raison. Excellente et impérieuse raison même. Il n'avait pas le droit, on l'a dit précédemment, il n'avait pas les droits d'émettre un quelconque jugement à l'égard de l'ordre du Temple. Non. Ça lui était tout simplement interdit. Il ne pouvait pas, le pape. C'était moral, on vient de le dire. Voilà. Au mieux, au pire, il s'est abstenu de les absoudre. C'est presque pareil, mais pas tout à fait. Alors donc, il fit nommer une commission pontificale quand même, avouons-le, pour contrecarrer les agissements de Philippe le Bel, du roi de France, qui serait chargé de juger. Celle-ci, donc la commission pontificale, celle-ci qui abolit l'ordre, est appelée la bulle Vox in Excelsio. Elle contient la phrase suivante, écoutez bien, où le très saint pape Clément V abolit l'ordre de la chevalerie du Temple. Elle apparaît au début du feuillet 33V, au recto d'ailleurs, du registre 291 des archives de la couronne d'Aragon, conservée à Barcelone et recopiée au XIVe siècle. Elle existe réellement et on l'a conservée. Ce document est rédigé à Vienne toujours la nôtre, en France, le 22 mars 1322, par Bernard de Guest, alias le pape Clément V. Oui, c'était le même. Mais bien sûr, il ne faisait qu'entériner, je dis bien qu'entériner, les investigations de son épiscopat.
Oh.
faisait qu'entériner les investigations de son épiscopat, ses évêques, ses curés, etc. Pour vos auditeurs, toujours, pour nos auditeurs, pour vos auditeurs, les nôtres hein, quand même, hein, les bulles pontificales tirent leur nom du sceau de métal, souvent au plomb d'ailleurs, attaché à la bulle, à la partie inférieure du document, le sceau, hein, par une cordelette de chambre ou de soie rouge, c'est selon l'importance de la bulle ou de son destinataire. Ça dépendait. Plus tard, on parlera d'un cachet, ce qu'on mettait en bas. Tac, un cachet. Maintenant, on appelle ça un tampon. Avant de recevoir l'empreinte qui frappe le recto de l'image des apôtres Pierre et Paul et le verso de celle du pape régnant, bien sûr, le métal, ce qui était du plomb, avait presque la forme d'une bulle. Une petite bulle sphérique, donc, d'où le nom de bulle. On appelait ça une bulle. Une bulle est donc un document composé d'une introduction, d'un texte et d'une conclusion. Voilà, tout simplement. Hein, voilà. À ceci près qu'elle fait loi dans toute la chrétienté. Toute, absolument toute. Ce qui est plutôt vaste, hein, on le sait maintenant. D'où le pouvoir des bulles. Imaginez que lorsqu'il propose une loi ou promulgue une loi, c'est dans tout le monde entier. Enfin, tout le monde chrétien. D'où le pouvoir des bulles et donc le pouvoir du pape. Eh oui. À noter qu'une bulle tire toujours son nom des premiers mots écrits après l'introduction, à savoir ici, vox in excelso, soit la bulle, la voix du Très-Haut, Dieu en somme, hein, voilà. Bien, toutes ces précisions dites, pourquoi au juste, sinon l'appât du gain, en voulait-on tant que ça à cet ordre des chevaliers du Temple? Parce qu'en réalité, c'est bien la vraie question. Ah, vaste et excellente question. Alors, prenons les choses par le bon bout, s'il vous plaît. Pourquoi au juste en voulait-on tant à cet ordre des chevaliers du Temple? Mais voilà, ainsi se termine la première partie concernant le dernier procès des Templiers, où l'on a vu que la confiance, décidément, est une maîtresse bien volage. Mais, chers auditeurs, mais, vous n'avez pas tout entendu, croyez-moi. Et bien des surprises vous attendent le mois prochain, et du costaud même, promis. Merci à Damien pour ses recherches et la musique parfaitement. À YouTube, à Lina, à Madame Simonetta Serini pour son livre sur les Templiers. Un grand bonjour à Chloé des Loisirs de Montségur qui est très très fan de l'histoire et qui nous écoute en permanence. Salut Chloé. Bien, en espérant, chers auditeurs, vous avoir intéressés ou au moins peut-être informés, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours le vendredi, pour les Templiers, même lieu et même heure. Bonsoir.